Bras zéro, brassage radio, 72 jours de mouvement social il y a 150 ans, et nous voilà ici encore à en parler. Alors pour certaines, c'était une évidence. Oh, la commune, quoi! Pour d'autres, ça sentait la vieille chaussette, voire ça n'évoquait pas grand-chose. Une foule de questions alors nous assalent, telles des Versaillais sur le Père-Lachaise. Pourquoi en parler? Pourquoi commémorer? Pourquoi cette date et pas une autre? Pourquoi maintenant? Et puis, comment? Voilà. Comme d'hab, on allait chercher du monde pour répondre à nos questions, partager nos interrogations. On en a rencontré plein pendant le week-end Commune Étincelle au Poum. Big up les organisatrices. Nous avons aussi rencontré des personnes qui ont préparé tout un conte. Il faut venger Gervaise, qui raconte l'histoire des femmes pendant la Commune. On a aussi ressorti des GJ d'avant la pandémie, qui nous avaient déjà parlé de la Commune. Et puis on a entendu craquer le Vieux Monde et la colonne Vendôme en direct ou presque. Alors en vrai, on n'a pas fini de discuter si la commune c'était juste l'événement pas trop problématique de l'histoire de ce pays, ou si c'est LA révolution sociale. On sait pourtant, sans aucun doute, que pas mal de merdes que l'on vit encore sont nées de cet écrasement. La République, une et indivisible, guerrière et raciste, a été baptisée au sang des communards. Et le minimum, c'est de continuer le combat.
1, 2, 3.
Liberté !
1, 2, 3.
Liberté !
Quand t'imagines qu'il y a eu la commune il y a 150 ans, ça te fait quoi ?
Des frissons.
Pourquoi ?
Bah, je trouve que c'est étonnamment moderne pour moi. Enfin, c'est très moderne pour moi, très l'organisation collective, la colère, ce que ça produit ce moment, collectivement. Et j'ai l'impression qu'ensuite... C'est comme si beaucoup de choses avaient été oubliées dans la plupart des endroits, quoi, de ce moment.
Ben non, je sais pas. Il y a 150 ans, ça me fait me dire qu'il peut se passer des trucs, c'est possible. Moi, là, ça m'avait donné envie de savoir qu'il y avait ce week-end-là. J'ai re-regardé un peu des documentaires sur la commune. Enfin, ça m'avait donné envie de me dire c'est quoi qui me parle encore de la commune. Et en vrai, en regardant le documentaire, je me suis dit que c'était un truc quand même très armé. Enfin, c'est quand même un peu une lutte quand même armée. Enfin, c'était hyper axé sur les barricades et tout. Et c'était pas vraiment axé sur le fond et l'autogestion. Et moi, j'avais ça en tête, quoi, que c'était un moment où Paris s'organisait en assemblée, en autogestion. Enfin, et là, le documentaire montrait beaucoup plus le côté lutte armée. Et qu'en vrai, moi, je sais pas si aujourd'hui, je serais capable de prendre les armes.
Mais ça me fait à la fois de l'espoir... Et un truc très triste, parce que c'est quand même l'histoire d'un massacre, et d'un massacre qui est à l'origine de la Troisième République et qui a été longtemps oublié. Du coup, c'est un peu les deux choses à la fois.
Non, mais le fait que ça fasse 150 ans, je trouve que ça ne fait pas si longtemps. Et pourtant, ça paraît un peu difficile d'imaginer que ce soit re la commune. Ça me fait un peu le vertige. Par exemple, 150 ans, comparé à d'autres trucs du XXe siècle, j'ai l'impression que... Je sais pas comment dire. Comme c'était il y a seulement 150 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait des gens qui étaient vivants à l'époque de la commune, qui étaient vivants. Et ça, c'est un peu troublant, parce que pour moi, la commune, c'est vraiment que des gravures et des histoires en noir et blanc, et aussi des morts, mais aussi un truc qui, je sais pas, s'est transmis comme une légende, mais j'arrive pas à imaginer ce que ça a été une transmission orale de la commune, par exemple. Je trouve que comme l'histoire qu'on raconte de la fin de la commune, c'est tout le monde est mort. J'ai du mal, par exemple, et j'ai aucun imaginaire de ce que c'est, à part les personnes qui ont été déportées, le récit des gens qui ont vécu la commune et qui vont continuer leur vie à Paris dans les années après, par exemple, la commune. C'est un truc qui me questionne quand maintenant on reparle de la commune. Apparemment, Paris était rasé, brûlé, dévasté et était un immense... champ de mort, et j'avais du mal à imaginer comment dans les deux ans qui suivent Ils construisent la Troisième République là-dessus, ils fabriquent tout ce qui est le modèle de la France du début du XXe et qu'on nous apprend comme voilà, étant là, alors que ça s'est construit sur un gros charnier. C'est une espèce de vide là, entre la fin des années 70 et 1870 et le début du XXe qui m'intrigue un peu.
Mais moi, je ne connaissais pas cette histoire avant d'arriver en France. Et quand j'ai connu cet épisode de l'histoire, j'étais assez halluciné, surpris. Déjà de ne pas avoir entendu quelque chose aussi important, on va dire. Et étonné parce que j'avais jamais entendu d'une situation pareille quoi, au Guatemala.
Démolissons tout, détruisons l'ancien monde, effaçons-en les traces, pour que le nouveau puisse naître. Cette colonne qui se dresse, si elle tombe aujourd'hui, c'est qu'elle célèbre les brutes et la barbarie. Elle lance des fleurs aux militaires et fait bander les vainqueurs qui toujours piétinent les vaincus. Démolissons tout, détruisons l'ancien monde, effaçons-en les traces, pour que le nouveau puisse naître. Cette colonne nous crache à la face son bronze, célébrant vaniteuse des orduriers publics. Glorifiée, célébrée pour trop d'éternité, encore couvert du sang des esclaves et des valets. Démolissons tout, bienvenue au nouveau monde, que les valeureux se lèvent et vivent enfin leurs rêves. Que la solidarité soit érigée en loi, que l'égalité s'éprouve entre toutes. Ces monuments qui rappellent les violences du passé seront sacrifiés pour réinventer.
Et voilà comment, en tyran, on abat tous les tyrans.
Radio Commune, bonjour, nous sommes toujours en mai 1871 pour commencer le point sur la situation militaire. À l'ouest, sur toute la ligne des combats d'artillerie, les batteries des Buttes-Montmartre continuent à tirer sur Gennevilliers et sur Bégon, ce qui occasionne en réponse un bombardement des Batignolles. Les travaux d'approche effectués par les Versaillais dans le bois de Boulogne sont très avancés. Au sud, le fort de Vanves évacué est occupé par les Versaillais. Au Petit Vanves, 2000 fédérés, sous le commandement de la Cécilia et de Lisbonne, essayent d'inquiéter les travaux des Versaillais dans le village d'Issy et au lycée de Vanves, sans succès. Les travaux d'approche des Versaillais sont presque terminés, rendant de plus en plus urgente l'exécution des travaux de défense à l'intérieur de Paris. Pendant ce temps à Versailles, le Goupillon est appelé à l'appui du sabre. Le comte de Mélun a déposé un rapport demandant que des prières publiques aient lieu dans toute la France, dans le but d'attirer la protection divine. À une effrayante majorité, 417 voix sur 420 votants, les prières publiques ont été décrétées. L'Assemblée réunie à Versailles confirme son attachement à l'Ancien Régime. Un Ancien Régime que la Commune est bien décidée à abattre. C'est aujourd'hui que le décret du 12 avril 1871 va être appliqué. Rappelons ici le texte du décret. La Commune de Paris considère que la colonne impériale de la place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l'un des trois grands principes de la République, la fraternité, La destruction qui était prévue pour l'anniversaire de la mort du tyran, le 5 mai, a été décalée à aujourd'hui 14h. Tout de suite, nos correspondants sur place.
En direct de la place internationale, nous sommes là pour voir tomber cette colonne Vendôme. Vous entendez la foule derrière moi, elle est nombreuse, elle est passionnée. Écoutez donc. Même si Foutriquet ne veut pas, nous on est là. Ils sont beaux, ils sont belles les communards, ils sont très nombreux, il y a des échafaudages, il y a des citoyens venus de tout Paris, de Ménilmontant jusqu'aux faubourgs les plus lointains. La garde internationale est là, les Versaillais sont aux portes, mais malgré tout, la foule est présente et elle est passionnée, elle va faire tomber cette colonne. Je vais m'approcher, voir si nous pouvons discuter avec quelqu'un, voir si on peut nous en dire plus. Je vois au loin l'ingénieur Irib. Peut-être pourra-t-il nous éclairer sur la situation. Bonjour, citoyen Irib. C'est vous qui êtes en charge de la démolition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors oui, bonjour, c'est moi qui me charge de démolir cet édifice. Pour le décrire un peu, on est face à un édifice oblong d'environ 44 mètres de haut pour un diamètre de 3. Tout là-haut, le tonton de Badinguet, grand boucher devant l'éternel. Tout ça, ça représente 98 tambours de pierre avec un escalier au centre. C'est complètement dingue.
Et comment va se passer l'abattage?
On fait une entaille en sifflet jusqu'à l'escalier. Et de l'autre côté, face à la rue Castiglione, on scie horizontalement la pierre en suivant une légère inclinaison. On va ensuite tirer la colonne dans l'axe de la rue de la Paix. C'est en tirant qu'on abattra le tyran.
Ah, c'est joliment dit.
N'est-ce pas? Tout ça tombera sur ce lit de sable, de fascine et de fumier.
Ah oui, un lit de sable. Mais pourquoi? C'est pour protéger le tyran?
On ne ménage pas la chute du boucher, on ménage l'égout qui est dessous. La décision était claire, il n'y aura pas de déboulonnage. C'est surtout pour l'égout, je le répète, qui est sous la rue de la Paix, que nous n'avons pas eu le temps de renforcer, d'étayer.
Je comprends, donc le tyran peut tomber.
Et le tyran doit tomber.
Merci.
Merci à vous.
Brasero, un passé pour hier.
Un avenir pour demain.
Un passé pour l'avenir. Hier est un avenir, non.
Que demain ne saurait tendre.
Ça a l'air bien. Votez Brasero.
Votez Brasero, quoi qu'il arrive.
Est-ce que, du coup, toi, comment ça te parle ou qu'est-ce que t'en retiens de cet événement-là? Qu'est-ce qui t'a été transmis, quoi?
Que c'est possible de faire basculer le pouvoir en y croyant collectivement, quoi.
Et c'est ça qui te charge d'émotion ou de...
Ouais, la possibilité de gagner, la possibilité d'avoir un front collectif large.
Et il y a des trucs que tu trouves particulièrement intéressants dans les formes d'organisation qu'ils ont mis en place?
Bah, je trouve par exemple... Après, il y a des trucs qui me déroutent, comme l'idée de se faire élire, etc., au moment où ça s'institutionnalise. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est... les cantines, les brigades par quartier, les brigades par affinité, la mise en place des écoles, la prise en compte de la place des, enfin le bras de fer des femmes et des filles pour avoir une place là-dedans, etc. quoi. Et j'ai l'impression après aussi le départ pour le bagne, etc. qui modifie aussi pas mal de rapports aux questions de racisme pour les gens qui partent, en partie, je pense.
Ce qui est pour moi marquant et tout dans les premières images que je me suis fait de la fête de la commune, c'est l'idée que ça semblait être un truc, enfin un mouvement très populaire, très de base et très inscrit dans la vie quotidienne, quoi. Que c'était autant une révolte, mais aussi une façon de réorganiser le travail, réorganiser de la distribution alimentaire, un truc que la révolution elle se fait en mettant très vite en place une forte autonomie. Enfin, un truc comme ça. Ça, c'est l'image un peu que j'en ai. Celle des barricades, mais aussi celle des grosses cantines, une forme d'approvisionnement, enfin, de besoin d'être autonome très très vite parce que c'était un peu l'embargo de Paris à ce moment-là et de se débrouiller absolument par soi-même. Les gens des alentours de Paris, ils avaient été ramenés dans Paris avec leurs animaux. Enfin, les paysans des abords de Paris étaient dans Paris avec leurs animaux. Il y a plein d'ateliers avaient plus de ressources pour fabriquer ce qu'ils fabriquaient. Et du coup, c'était mis à fabriquer des produits de première nécessité. Enfin, tout en réaménagement de la vie sociale, quoi. C'est ça que ça me fait penser. Pas que aux barricades. Et après, le truc que dernièrement, en apprenant des choses sur la commune, parce que comme c'est l'anniversaire, on voit plein documentaires, d'émissions. C'était quelque chose que moi j'avais oublié, ou je ne sais pas si on me l'avait dit, c'est qu'aussi la commune, ça a à voir beaucoup avec les guerres et la construction du nationalisme en Europe et les guerres impérialistes. Ce qui déclenche la commune, ce n'est pas juste du jour au lendemain une insurrection ouvrière, même si ça repose sur une grosse organisation comme ça de travailleuses. Mais c'est aussi que c'est la guerre avec la Prusse et que l'État français, est dans les dynamiques de reprise de pouvoir, il se sert de la guerre pour écraser la commune ou la révolution naissante. Et dans le même temps où l'État prussien là, est en train de fabriquer la Grande Allemagne, le nationalisme allemand, et pareil, on va dire, met en branle cette guerre contre la France pour, dans ses arrières, à sa façon, écraser aussi les révoltes populaires et tout. Et du coup, ça, c'est l'image que je me dis qu'on m'avait pas transmise au début de la commune, c'est que c'est aussi le résultat de bastons entre nations impérialistes, quoi, qui se sont faits sur le dos des ouvriers, quoi.
Qu'est-ce qui m'inspire le plus ? Des décisions comme celle de la suspension des loyers ? Le fait que les concubines et les femmes mariées aient les mêmes droits, le fait que soit pensée l'égalité entre les hommes et les femmes, l'invention des crèches, le fait que des ouvriers se sentent légitimes pour organiser et penser le pouvoir politique. Bah ça, quand même, c'est quand même délirant, c'est quand même fou, quoi. Bon, ça date pas de 1871, mais c'est juste génial de s'imaginer une ville en ébullition où les gens ils discutent dans tous les coins et ils décident que oui, ils peuvent prendre le pouvoir alors qu'ils sont dans une situation de guerre, qu'ils ont les Versaillais contre eux, donc qu'ils sont extrêmement pressurés de tous les côtés. Ils ont plein d'ennemis en réalité, et là ouais, ils s'octroient le pouvoir, quoi. Ils le prennent. Et ça, c'est complètement fou de se dire qu'ils ont pris les armes. Aussi, peut-être parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'était la famine et tout. Hein. Je sais pas, moi, je suis hyper admirative de ces gens. Et j'imagine que ces 71, 72 jours, ils ont transformé les gens fondamentalement. Enfin, je sais pas. Je me dis déjà, dans un mouvement social, on peut être transformé en quelques jours. Alors là... je sais pas, en 72 jours, mais tu sors, t'es transformé. Mais d'ailleurs, il y en a plein des récits là, qui nous racontent cette histoire de gens dont la vie sera plus jamais la même. Bon, bah évidemment, les 20 000 morts, c'est sûr, elle sera plus jamais la même. Mais ceux qui ont été déportés, c'est pareil, ceux qui ont écrit, il y a des gens qui ont écrit après aussi, qui écrivaient pas avant. Qu'est-ce qu'il y a eu ouais, c'est quand même un peu un moment lumineux, quoi, dans l'histoire du 19e.
À la fois ultra lumineux et ultra tragique.
Sanglant. Complètement sanglant. Parce qu'après ça, moi, j'arrive pas à me représenter ce que ça veut dire qu'un gouvernement républicain décide de fusiller 20 000 personnes, entre 20 et 30 000 personnes. C'est vraiment un truc, c'est hors de représentation, quoi.
Il y a des gens qui parlent d'un génocide politique.
Ah ouais, pas con. Ah ouais, pas con. Ouais, vraiment, parce qu'en plus, le truc, c'est que c'est les mêmes qui vont être les mêmes qui tuent les communards et les communardes, qui vont être encensés comme les fondateurs, soi-disant, d'une république émancipatrice, qui en plus va copier des idées. En plus, en réalité, la laïcité, croque quoi, c'est pas Jules Ferry qui l'a inventé, ou je sais pas qui, rien du tout, c'est les communards. Et tatati tatata, après, ils se font une réputation de progressistes sur le dos des communards. Et après, d'ailleurs, tous les républicains, ils vont être nourris de cette haine-là du peuple dont ils ont hyper peur. Et ouais, ils ont raison d'avoir peur. Parce qu'en fait, la ville de Paris et d'autres villes en France leur ont vraiment échappé, quoi. C'est le seul moment, après 1848 en tout cas, où ça dure un peu. Après, c'est très court, hein, 72 jours en fait. C'est que 2 mois. C'est minuscule, quoi.
Alors, la prochaine chanson, ça s'appelle « La danse des bombes ». Et ça a été écrit par Louise Michel, qui paraît-il, mais c'est un peu la légende qui dit ça, l'a chantée dans une église occupée sous les feux des bombes. Et elle appelait à la révolution.
Oui, la révolution, oui, j'aime le canon, la mitrailleuse dans l'air, oui, la nuit dans son
nom. La danse des bombes, garde à vous, voici.
Dansons la danse des bombes, garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille, on veut
à ses juges. Après avoir échoué à sauver Ferré, Louise Michel aspire au sacrifice. C'est dans cet état d'esprit qu'elle affronte ses juges. Son audace la rend célèbre et la conclusion de son procès est régulièrement publiée de son vivant avec quelques variantes. Nous présentons ici la première transcription, effectuée lors du procès par la Gazette des Tribunaux. Son courage tranche singulièrement avec l'attitude des élus de la commune qui, note Jacques Rougerie, ont fait, sauf exception, plutôt pâle figure. Dans une défense où elle trouble le genre presque à chaque phrase, rappelant qu'elle s'est habillée en garde nationale et a combattu sur les barricades, elle assume aussi les paroxysmes de la commune combattante, dont l'incendie de Paris, considéré comme le pire crime de la commune avec l'exécution des otages. Interrogatoire de l'accusé. Vous avez entendu les faits dont on vous accuse ? Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?
Je ne veux pas me défendre. Je ne veux pas être défendue. J'appartiens tout entière à la révolution sociale et je déclare accepter la responsabilité de mes actes. Je l'accepte tout entière et sans restriction. Vous me reprochez d'avoir participé à l'assassinat des généraux ? À cela, je répondrai oui. Si je m'étais trouvée à Montmartre quand ils ont voulu faire tirer sur le peuple, je n'aurais pas hésité à faire tirer moi-même sur ceux qui donnaient des ordres semblables. Mais lorsqu'ils ont été faits prisonniers, je ne comprends pas qu'on les ait fusillés. Et je regarde cet acte comme une insigne lâcheté. Quant à l'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. Je voulais opposer une barrière de flammes aux envahisseurs de Versailles. Je n'ai pas eu de complice pour ce fait. J'ai agi d'après mon propre mouvement. On me dit aussi que je suis complice de la Commune. Assurément, oui, puisque la Commune voulait avant tout la révolution sociale et que la révolution sociale est le plus cher de mes vœux. Bien plus, je me fais l'honneur d'être un des promoteurs de la Commune. Elle n'est d'ailleurs pour rien qu'on le sache bien, dans les assassinats et les incendies. Moi qui ai assisté à toutes les séances de l'Hôtel de Ville, je déclare que jamais il n'a été question d'assassinat ou d'incendie. Voulez-vous connaître les vrais coupables ? Ce sont les gens de la police. Et plus tard, peut-être, la lumière se fera sur tous ces événements dont on trouve aujourd'hui tout naturel de rendre responsables tous les partisans de la révolution sociale. Un jour, je proposais à Ferré d'envahir l'Assemblée. Je voulais deux victimes, Monsieur Thiers et moi, car j'avais fait le sacrifice de ma vie et j'étais décidé à le frapper.
Dans une proclamation, vous avez dit qu'on devait toutes les 24 heures fusiller un otage.
Non, j'ai seulement voulu menacer. Mais pourquoi me défendrais-je ? Je vous l'ai déjà déclaré, je me refuse à le faire. Vous êtes des hommes qui allez me juger. Vous êtes devant moi, à visage découvert. Vous êtes des hommes et moi je ne suis qu'une femme. Et pourtant, je vous regarde en face. Je sais bien que tout ce que je pourrais vous dire ne changera en rien votre sentence. Donc un seul et dernier mot avant de m'asseoir. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la Révolution, je le jure par nos martyrs tombés sur le champ de Satori, par nos martyrs que j'acclame encore ici hautement et qui un jour trouveront bien un vengeur. Encore une fois, je vous appartiens. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Prenez ma vie si vous la voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant.
Vous déclarez ne pas avoir approuvé l'assassinat des généraux. Et cependant, on raconte que, quand on vous l'a appris, vous vous êtes écrié « On les a fusillés ! C'est bien fait !»
Oui, j'ai dit cela, je l'avoue. Je me rappelle même que c'était en présence des citoyens, le Moussu et Ferré.
Vous approuviez donc l'assassinat ?
Permettez, cela n'en était pas une preuve. Les paroles que j'ai prononcées avaient pour but de ne pas arrêter l'élan révolutionnaire.
Vous écriviez aussi dans les journaux, dans le Cri du Peuple par exemple ?
Oui, je ne m'en cache pas.
Ces journaux demandaient chaque jour la confiscation des biens du clergé et autres mesures révolutionnaires semblables. Telles étaient donc vos opinions.
En effet, mais remarquez bien que nous n'avons jamais voulu prendre ces biens pour nous. Nous ne songions qu'à les donner au peuple pour augmenter son bien-être.
Vous avez demandé la suppression de la magistrature ?
C'est ce que j'avais toujours devant les yeux, les exemples de ces erreurs. Je me rappelais l'affaire Les Surques et tant d'autres.
Vous reconnaissez avoir voulu assassiner Monsieur Thiers ?
Parfaitement. Je l'ai dit et je le répète.
Il paraît que vous portiez divers costumes sous la commune.
J'étais vêtue comme d'habitude. Je n'ajoutais qu'une ceinture rouge sur mes vêtements.
N'avez-vous pas porté plusieurs fois un costume d'homme ?
Une seule fois. C'était le 18 mars. Je m'habillais en garde nationale pour ne pas attirer les regards.
Accusé, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?
Ce que je réclame de vous, qui vous affirmez conseil de guerre, qui vous donnez comme mes juges, qui ne vous cachez pas comme la commission des grâces, de vous, qui êtes des militaires et qui jugez à la face de tous, c'est le champ de Satori, où sont déjà tombés nos frères. Il faut me retrancher de la société. On vous dit de le faire ? Eh bien, le commissaire de la République a raison, puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb. J'en réclame ma part, moi. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance et je dénoncerai à la vengeance de mes frères les assassins de la commission des grâces.
Je ne puis vous laisser la parole si vous continuez sur ce ton.
J'ai fini. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi.
Radio Commune, bonjour. La destruction de la colonne Vendôme est imminente. On retrouve sur place, en direct, nos correspondants.
Toujours en direct de la place internationale et nous attendons que le tyran tombe. J'ai l'impression qu'il y a quelques problèmes techniques. La foule s'impatiente. Ceci dit, elle chante, elle pousse des slogans. Elle veut le voir tomber. Dès que nous en saurons un peu plus, je vous rappelle, nous reprenons l'antenne. Radio Commune, toujours au cœur de l'action.
Avec nous sur ce plateau à Bras Zéro, nous accueillons dans les studios le Père Duchesne. Le Père Duchesne, bonjour.
Bonjour.
Père Duchesne, vous êtes marchand de fourneaux et nous vous accueillons pour commenter ce décret communal de la destruction de la colonne Vendôme. Alors, peut-être qu'on pourra entendre donc votre réaction.
Mais voilà, ben oui, ben voilà, un décret bougrement patriotique qui supprime la colonne Vendôme dans l'intérêt du peuple. Foutre, foutre. Le Père Duchesne est bougrement content. Ah, c'est crânement bien. Il nous fallait ça. Comment on fout des colonnes et des statues à des gens foutres comme le premier Bonaparte ? Parce qu'il a fait tuer 4 millions d'hommes et dépensé pour les faire tuer 17 milliards ! Nom de Dieu ! Bah oui, il y a eu 4 millions d'hommes et plus tués pour ce gens foutre qui était comme les Favre, les Thiers et leur bande, un partisan de l'unité nationale. Oh le gredin ! En voilà qu'on a bien fait d'envoyer crever dans son île. Sans cela, il eût fait encore tuer des centaines de milliers de patriotes qui étaient assez bêtes pour croire à la gloire et qui pensaient servir la nation, tandis qu'ils ne servaient que la vanité de ce Jean Foutre. Des colonnes pour ces bougres-là, des colonnes en bronze à foutre, foutre. Faut-il tout de même que la France ait eu jusqu'ici des gouvernements canailles pour qu'on n'ait pas encore fondu tout ce bronze-là pour faire des sous ? Heureusement, la commune a eu l'œil, nom de Dieu.
Merci, Père Duchesne. Il en est pourtant des communeux bien communards pour dire qu'il nous faut préserver la statue et la déboulonner plutôt que la battre. Que sans cela, nous flétrissons la mémoire des combattants. Qu'en pensez-vous ?
Pour la foutre foutaise ! Voyez-vous, citoyenne, si jamais un homme nous a foutu dans la moutarde, c'est bien ce Jean Foutre de Bonaparte le premier. Non seulement par la guerre, mais encore parce qu'il a fait une foule de trucs qui ont arrêté la révolution et consolidé la tyrannie. Ah, c'est un despote bougrement canaille, celui-là. D'abord, c'est lui qui a inventé le code Napoléon. Et c'est une chose qui a crânement foutu le peuple dedans. Et pourquoi ? Le Père Duchesne va vous le dire. Le code civil est une vaste infamie, fondée sur l'idée autoritaire du droit divin, qui consacre à perpétuité le droit du riche contre le pauvre, du propriétaire contre le locataire, du capitaliste contre le producteur, du maître contre l'esclave, de l'homme contre la femme. Assez de code civil ! Nous n'en voulons plus foutre ! Et c'est encore le même Jean Foutre qui a tué l'idée fédérale et qui a reconstitué l'idée unitaire en centralisant les pouvoirs, en faisant aboutir toutes les ressources dans une seule main, en établissant cette sacrée institution des préfets, qui est bien une des plus saines institutions qu'il y ait et la plus propre à éteindre la vie des groupes. Le Père Duchesne veut dire l'existence communale du pays Foutre. Il faut que tout le monde vive, et le groupe comme l'individu. Et la commune comme la personne. Voilà ce qu'il faut. Ou nous verrons bien. Ou nous ferons la révolution jusqu'à ce que cela soit foutre. Oui, la fédération à la place de l'unité, la place au soleil pour tous, et la vie, nom de Dieu, la vie. Et vive la commune qui va foutre à bas le sage Jean Foutre d'empereur Bonaparte Ier, l'auteur du code civil, de l'organisation préfectorale et du second empire. Tonnerre de Dieu.
Merci Père Duchesne. Vous êtes bien remonté, j'espère que les micros ne saturent foutre. Pas. Mais pourtant, l'enjeu n'est-il pas que national ?
Mais oui, citoyenne, mais oui, bien sûr. Cette colonne avec la statue de l'oncle de Badinguet, ce sont des souvenirs de l'ancienne Jean-Foutrerie, qui s'appelait l'esprit de conquête, le militarisme, comme on dit maintenant, la gloire, comme on disait autrefois, la gloire, malheur, la gloire. Est-ce que c'est que la gloire C'est la gloire, c'est la paix, le bonheur, l'accord parfait de tous les cœurs, qu'ils battent sous le ciel bleu de l'Afrique ou sous le ciel chargé de neige de la Russie. Plus de disputes avec les autres nations, voilà le programme de la révolution. La concorde partout, le bien-être à l'intérieur, l'union avec l'extérieur, voilà le mot d'ordre. En un mot, la fédération universelle, allons, allons! Les peuples sont pour nous des frères. Détruisons tous les souvenirs des anciennes guerres qui entretiennent les rancunes entre les nations et qui excitent toujours les peuples à prendre les uns sur les autres des revanche dont ne profitent que les tyrans.
Merci beaucoup, Père Duchesne. Nous rappelons que vous êtes marchand de fourneaux. Pour l'instant, toujours rien du côté de la place internationale. Nous rendons l'antenne à vous, Brasero, à vous, les studios.
Il faut venger Gervais, c'est le nom d'un conte musical qui prend place dans un immeuble du 10e arrondissement pendant l'insurrection populaire que fut la Commune de Paris. Et dans cet immeuble vivent des blanchisseuses et leurs voisins et leurs amants vont prendre part à la Commune. C'est du coup l'aboutissement d'un projet culturel et politique qui s'est beaucoup dessiné au fur et à mesure que les 150 ans de la Commune arrivaient. Il a pris une ampleur et en même temps a participé à fêter la Commune avec ce 150e anniversaire qui a tenté d'exister dans un contexte assez particulier, si on veut, et aussi dans un moment où la question est posée, va-t-on oublier la Commune parmi les débats politiques qu'on a? Assez vite les lectures qu'on avait eues de ça, elles posaient l'idée que la Commune est beaucoup vue par le point de vue des armes, puisque le peuple a pris les armes, et elle est aussi vue beaucoup du point de vue des hommes, et bon, cette année on a quand même fait un peu plus honneur aux femmes, mais toujours quand même un peu aux femmes combattantes, mais pas à l'ensemble de leur œuvre pendant la Commune, avant et après aussi, c'est ce qui nous a intéressé. Des femmes qui à Paris à cette époque sont à 70% presque travailleuses du linge, et particulières en blanchisserie. Donc on a décidé de faire une œuvre qui inventait un point de vue de femme, et en inventant ce point de vue de femme, nos personnages sont assez naturellement devenus des blanchisseuses, qui reprenaient les débats de l'époque, le rapport aussi à la vie des enfants, puisque la Commune invente les crèches, mais bon, du coup si elle les a inventées, c'est que y avait un rapport aux enfants qui était très très important, et aussi à l'ensemble de l'œuvre pendant la Commune, avec la création de l'Union des Femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés, qui est l'organe de la Commune qui a le mieux fonctionné, hein, on le dit pas souvent. Donc cette présence politique des femmes dans la Commune, il nous est apparu que pour qu'on la comprenne, pour qu'on l'entende et pour qu'on y réassocie la richesse de création que c'était, il fallait une œuvre, culturelle, quelque chose. Et donc c'est devenu aussi assez naturellement encore un conte musical notamment pour l'héritage en chanson qu'on a de la commune, quand on connaît quelque chose de la commune, parfois on connaît ses chansons, quoi, que ses chansons. Ce qui n'est pas anodin, puisqu'il y a un lien très très fort hein, entre la présence de chansonniers et de chansonnières dans la commune, le fait que les ouvriers et les ouvrières, beaucoup, enfin le peuple en fait, chantaient beaucoup en chœur, ce qui n'est pas une histoire non plus inutile quand on voit comment les sonos ont pris la place de nos chants et de nos voix dans les manifestations. Et donc, le comte a essayé de brasser toute cette pensée-là, qui est assez originale, hein, les blanchisseuses et leur présence dans la commune. Ça se retrouve dans ruedelacommune.com, où on a produit des articles au fur et à mesure. Quand le conte a été inventé, naturellement, comme on avait décidé que chaque personnage deviendrait une voix particulière, on a de fait collectivisé le processus de création et on a essayé de rassembler des villes, des vécus, des rapports à la commune différents, on a essayé de fédérer, si on veut. Et chaque chanson a un peu son destin propre, sa manière d'avoir fédéré des personnes.
Si c'est Paris, la fête, c'est par ici. On siffle, on rigole du départ des puissants. Paris est en fête, Versailles stupéfaite, que nous manque rien. Prenions en main nos destins. Que nous manque rien, prenions en main nos destins. Ici c'est Belleville, la fête c'est par ici. C'est bien tranquillement qu'on s'installe sur les bancs et qu'on rit bien fort, voir courir les cadors sous les colibettes des garçons de café. Tiers, tiers, méchant tiers, pour les capitulars et infâmes vieillards. Tiers, tiers, méchant tiers. Ici Ménilmontant, la fête c'est par ici. Si c'est des canons qu'on crée de la friction, c'est si calmement que vient la révolution. Que notre république bouscule les vieilles reliques. Ici les Batignolles, la fête c'est par ici. Le peuple chante, danse, revendique en cadence son pouvoir à lui et sa joie inouïe. Il applaudit à point pour qu'on l'entend de loin. Tiers, tiers, méchant tiers, le nabo malfaisant et le cœur saignant. Tiers, tiers, méchant tiers. Ici c'est Montmartre, la fête c'est par ici. On a pris la rue, ni vu ni connu. On a renversé les vieux ankylosés. Suffisait pas grand chose des communes qui osent. Ici le boulmiche, la fête c'est par ici. Paris est à nous, ses rats, ses égouts. On prend tout comme c'est, on va pas chipoter pour quelques racailles dans notre bercail. Tiers, tiers, méchant tiers, roi des Versailles, tiers l'incestueux. Tiers, tiers, méchant tiers.
Et puis l'anniversaire est arrivé, on avait presque fini l'invention, et donc on a essayé de participer à la commune en proposant quelque chose d'original. En sortant les chansons au fur et à mesure, et en parallèle on a créé un petit spectacle avec une partie des gens du projet, où on n'a pas tout repris, mais on a repris le point de vue de l'œuvre, qui est un point de vue encore une fois féministe, et qui aussi veut replacer un lien entre les arts et la politique qui est vif et dont on a besoin, quoi. Ça c'est un des points de vue du spectacle, et voilà, un des finales de ça, et avant la suite qu'on connaît pas, c'est que le 29 mai 2021, on s'est retrouvé donc sur la place de la République avec une bonne partie des gens, et puis des gens qui se sont arrêtés, et on a tenté de vivre un moment populaire où Gervaise, qui est donc le personnage de l'histoire, qui incarne un peu cette blanchisseuse qui va s'engager à fond dans la commune, a une place aujourd'hui en 2021.
Résonne déjà, il faut venger Gervaise pour qu'on ne l'oublie pas. Son nom résonne déjà, il faut venger Gervaise pour qu'on ne l'oublie pas.
Flash Info Radio Commune, bonjour, attention, attention, la colonne Vendôme est sur le point d'être écroulée, on retourne sur place,
toujours
en direct.
En direct de la place internationale, l'ambiance est surchauffée, vous pouvez l'entendre derrière moi. Il semble que cette fois, c'est imminent. Hein. Cette fois, la colonne devrait tomber. Je vais m'approcher un peu d'un groupe qui semble particulièrement animé pour leur demander ce qu'ils en pensent. Vous êtes venu pour quoi aujourd'hui ?
Je suis venu pour voir la chute de la colonne et de l'ancien monde qui s'effondre avec Napoléon et ses sbires.
D'accord, et vous pensez que ça va se passer comment ?
Très bien, j'imagine dans l'allégresse, la liesse, le feu et la joie, et pas de sang. Pas de sang, ça m'étonnerait qu'il y ait du sang quand même.
D'accord, vous n'avez pas peur de la répression ?
Non, on est trop fort, on est trop nombreux, trop déter, trop soudés, trop organisés. Voilà.
Merci. Bonjour, Radio Commune Communard, je peux vous poser quelques questions ? Vous pouvez me dire ce qui se passe là ?
Bah, il se passe qu'on se fait chier depuis tout à l'heure à essayer de faire tomber cette foutue colonne alors qu'on va se faire piller la gueule dans 3 heures quoi.
Ouais, franchement, faut faire attention, les Versaillais sont à nos portes, on fait pas assez gaffe, c'est sûr que c'est symbolique cette colonne, mais en fait on a peut-être d'autres chats à fouetter en ce moment. Hein.
Et puis c'est quoi l'image qu'on donne ? On donne encore l'image d'un mouvement d'enragé là.
Ça c'est bon, attends, on a le droit de faire
tomber. Mais tu sais très bien que les journaux ils vont dire quoi après demain, tu vois, le révolutionnaire, le sabre entre les dents, tu sais très bien, c'est comme ça que ça finit.
Vous auriez préféré une autre action plutôt que faire tomber la colonne ?
Moi je suis pour une voie légaliste, madame, parce qu'à la fin, on sait très bien comment ça finit, on sait très bien qu'à la fin, on va être taxé de violence, et nous, ce qu'on veut, c'est rassembler, merde !
Je vais t'en donner de la violence, moi, camarade, je vais voir. C'est bon.
Mais oui, l'empereur, il est violent.
Vous avez peur de la répression ?
On a tous peur de la répression, mais ce qu'il faut, là, c'est une délibération du conseil municipal.
Mais c'est dévendu, tu sais très bien que c'est dévendu.
Voilà, alors l'autre, il est en train de nous rejouer, comité de salut public, 92, allez, vas-y, on coupe la tête à tout le monde.
Hein ? Ah ouais, c'est quand même un dictateur, le type.
L'esclavagiste. Comme Robespierre.
Ah bah quand même, Robespierre, oui c'est vrai, c'est aussi un dictateur, mais en revanche, il n'a pas colonisé la moitié de la planète. Enfin,
il faut aussi parler de la commune de Paris qui était contre le vote des Français.
La commune de Paris était contre le vote des Français ?
Oui, c'est pour ça aussi.
Pourtant, tout le monde a voté pour élire la commune.
Non, c'était contre le Parlement qui avait été... Vous pouvez dire votre...
Non, putain, là, franchement, la commune a justement donné à tous les Parisiens, les Parisiennes d'ailleurs, la possibilité de voter et de décider, quoi.
Contre le vote des Français.
Du Parlement, parce que c'était pas légitime ce que faisait le Parlement. Bah, d'ailleurs, le Parlement a massacré...
Je me moque de vous, j'ai pas dit que c'était bon ou pas bon. Ça fait partie de l'histoire de Napoléon.
Oui, on peut choisir qui on commémore. Mais là, vous allez rester à côté de la colonne Vendôme qui va vous tomber dessus ou quoi ? Non, mais un Versaillais. Hé, il y a un Versaillais ! Il y a un Versaillais ! Il part dans l'autre temps ! Il part dans l'autre temps !
Attention camarade, attention à la
responsable.
Éloignez-vous.
Non, ça va tomber sur le fumier là.
Tout fumier.
C'est un casque, je ne sais pas.
Allez les gars, allez. Let's go.
Cette fois, c'est bon, la colonne est tombée. Elle est tombée, vous entendez la foule en liesse derrière moi. Tout le monde est ravi, heureux. C'est un grand moment d'histoire. La colonne s'est abattue, donc, dans un grand nuage de poussière. Si c'est une ambiance surréaliste. On voit l'empereur qui gît dans le fumier et les fascine. C'est un grand moment et je suis ravi de le partager avec vous.
Bras zéro élection.
Ouais, mais du coup, il n'y a pas de représentant du peuple.
Mais comment on fait pour savoir ce qu'on doit faire ?
Bras zéro élection.
Mais c'est qui gouverne, du coup ?
Ça veut dire qu'il n'y a pas de chef.
Mais qui est-ce qui va nous dire quoi faire, du coup ?
Je comprends pas le nom de l'émission, là.
Bon, on va l'appeler Bras zéro, vive la commune.
Ah !
La commune. C'est un truc étrange, la commune. Ça évoque le communisme, mais aussi la mairie du bled. Ça fait penser à un échelon où peut-être, pourquoi pas... Les choses pourraient être différentes ici et maintenant. On pourrait voter au municipal. Avant que la pandémie nous tombe dessus, il y avait justement des élections municipales dans les tuyaux et il y avait aussi des gilets jaunes qui faisaient une assemblée des assemblées à Toulouse, Alors on est allé traîner nos micros et la commune idéale, pour elle et eux, c'était tout un tas de choses.
Moi, je ne considère pas le système municipal tel qu'il est aujourd'hui comme intéressant, ni même démocratique. Il n'empêche qu'il reste un tout petit peu de choses entre les mains des municipalités sur lesquelles, du coup, en tant que personne de base, on peut plus ou moins influer.
On a écrit une constitution communale dans notre collectif et donc on la propose aux candidats. Donc il y aura donc du RIC, de la révocation, des ateliers communaux, et puis il y aura un conseil municipal enfants et seniors, et puis un comité de sages qui sera consulté tous les semestres, entre autres.
On a réouvert un cercle des travailleurs dans notre village, voilà, pour rencontrer des gens, pour faire que les gens se rencontrent. Et on n'a pas abordé frontalement la question politique, la question du municipalisme et tout ça. Mais finalement, c'est pas si loin derrière, quoi. Voilà, recréer du lien social entre les gens pour qu'ils s'aperçoivent qu'on peut le faire. Il n'y avait plus de café dans le village parce que en tant que commerce, ça ne peut pas tenir. Par contre, en tant que café associatif, que les gens tiennent eux-mêmes, c'est possible. Et les gens en ont besoin. Donc, même si c'est à toute petite échelle, ça marche. Les gens viennent. On se rencontre, on
quand
échange.
On a fait le RIC et on est allé au bout à Sainte-Afrique. Moi, j'étais ravie de voir que les 40 propositions des citoyens, c'était des propositions pour le bien commun.
Voilà, moi, la meilleure organisation, ce serait ça. Prendre l'avis de tout le monde. Et je pense qu'en général, tout le monde a à peu près le même avis. On veut une vie simple, familiale et faite de convivialité, de bon partage entre amis. Donc,
Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va rapidement définir comme le municipalisme libertaire et pousser à la création de conseils municipaux. Enfin, bon, il y a la commune de Saillant dont on a beaucoup parlé en France.
C'est une commune dans la Drôme, il me semble, où le maire a... où en fait l'équipe, le conseil municipal a un peu redistribué le pouvoir sous forme d'assemblée et faire en sorte que, voilà, que ce soit les gens qui puissent s'impliquer directement et que tout soit fait à ce niveau-là. Ouais.
C'est quelque chose qui ressemble à de la démocratie directe, en fait, hein, où les citoyens se réunissent, discutent ensemble de certains projets, pas de tous les projets de la commune. Bon, ils ont un petit droit de parole. Donc, Saillant s'est amélioré.
Après, l'échelle administrative des communes, on voit bien que y a de moins en moins les maires ont de moins en moins de leviers d'action pour faire des choses sur leur territoire. De plus en plus, il y a déjà l'intercommunalité qui a des compétences, etc. Et je pense qu'on peut s'organiser à l'échelle locale, mais sans passer par des réseaux politiques et institutionnels. Ça serait un peu mon idéal, en fait.
De haut en bas et de bas en haut, le système est le même. Donc voilà, un maire n'a aucun pouvoir... pas plus que, voilà, les gens qui ont du pouvoir, voilà, les députés, les sénateurs, ils sont copains comme cochons tous entre eux, voilà, ils nous montrent qu'il y aurait des partis, des différences, des machins, mais au bout du compte, ils mangent tous à la même table. Tout se fait dans l'ombre, tout passe en 49-3. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ma commune idéale, c'est la commune que tous les gilets jaunes voudraient, c'est-à-dire où tout le monde peut donner son avis, où tout le monde est entendu, où tout le monde est pris en compte, quoi, n'importe ses couleurs politiques, ses couleurs vestimentaires, n'importe, voilà, ses idées, etc., que tout le monde puisse s'exprimer et dire ce qu'il en pense et que tout citoyen puisse décider, c'est important.
Si j'étais élu là, moi, ma première mesure, c'est de proposer à la population du village de monter un conseil citoyen, un conseil municipal qui est... lui, le pouvoir de décision.
La commune de Paris. Voilà, l'auto-organisation, ce serait ça, ouais. Autogestion. Parce que toutes les réponses sont dans le peuple et peuvent être trouvées collectivement, intelligence collective, il y a des choses... Enfin, en fait, on n'a pas besoin de personne pour nous représenter ou pour... Enfin, le pouvoir est à la base, quoi.
Alors, est-ce que la commune, c'est la mairie? Un peu quand même, les élus de la commune étaient bien des sortes de conseillers municipaux, non? Il y a un témoignage d'un élu de la commune de Lyon qui n'est pas inintéressant à ce sujet. En voici un extrait.
Revue Blanche, enquête sur la commune.
un insurgé lyonnais. Mon rôle, du 4 septembre au 22 mars, a été celui d'un ardent propagateur de la Révolution, prêchant à l'atelier, me mêlant à tous les mouvements, toutes les petites émeutes qui relient entre ces deux dates. Cette attitude me valut d'être nommé membre de la Commune de Lyon. Instinctivement, par intuition plutôt que par raisonnement, je sentais que je commettais un illogisme en prêchant la liberté et en acceptant d'être un nouveau maître. Mais comment refuser sans passer pour un lâche ? Il y avait danger, et j'ai accepté. Je m'en suis toujours voulu depuis, quoiqu'à cette époque, je fusse de ceux qui croyaient qu'avec un pouvoir révolutionnaire, on pouvait faire quelque chose. Je n'avais pas encore compris que si la révolution n'est pas faite dans les esprits, elle n'est pas possible dans les faits, et que par suite, si elle est faite et passée dans les idées, il devient inutile de nommer un pouvoir pour la faire aboutir. Cela était tellement logique que je n'y avais pas songé. À la Commune, mon rôle a été celui que tout gouvernant peut avoir, absolument inutile quand il n'est pas nuisible. J'ai été assez bête pour accepter un pouvoir qui me liait les mains tout en me donnant le droit de lier celle des autres. J'en fais ici mon mea culpa. Aujourd'hui, je ne commettrai plus cette bourde. Mon opinion est que l'insurrection de 1871 ne pouvait aboutir, justement parce qu'elle était sortie de l'état insurrectionnel pour entrer dans l'état gouvernemental. Je crois que toute insurrection qui marche à la conquête d'un nouveau pouvoir est stérile, que toute insurrection qui se nomme des chefs est mort-née. L'état insurrectionnel est celui dans lequel le peuple, seul, sans meneur et sans chef, peut marquer ses désirs, ses volontés, ses aspirations et ses besoins. Dès qu'il y a un chef, il y a un maître. L'état insurrectionnel cesse pour faire place à celui de l'esclavage. Et dire qu'on peut se donner des chefs qui vous commanderont d'aller à Versailles parce que vous leur commanderez de vous y conduire est une idiotie. Paris, Lyon et d'autres communes de 1871 sont mortes des chefs, des parlementaristes, même les mieux intentionnés. Pour terminer, je confesse avoir beaucoup de regrets de n'avoir pas pu faire davantage. Mais mon plus cuisant remords est d'avoir mérité ce terrible soufflet. J'étais en exil, me disputant avec Jacques Gross, devenu depuis l'un de mes meilleurs amis. Il me lança cette apostrophe. « Tais-toi donc et élu !»
Est-ce qu'il y aurait une autre date que tu aurais envie de commémorer, un truc qui te fait vibrer ?
Moi, en tant que latino, par exemple au Guatemala, au Mexique, en 1910, il y a eu une révolution dans laquelle il y a eu une réforme agraire. Et du coup, c'était marquant et ça reste jusqu'à maintenant. Et puis le mouvement zapatiste a repris... Dans les temps contemporains, cette même racine.
Oui, moi, c'est en 1944 au Guatemala. Il y a eu une révolution sociale aussi. C'est la seule qu'il y a eu dans le pays, qui a donné ça a donné une période de 10 ans où il y avait eu pas mal d'espoir, pas mal de droits qui sont arrivés pour les gens et des nouveaux débats sociaux qui n'existaient pas.
Ça s'est soldé comment cette révolution au Guatemala ?
Comment elle a fini ? Elle a très mal fini parce qu'il y a eu un coup d'État organisé par les États-Unis et les riches propriétaires du Guatemala, et ça a donné naissance à une guerre civile qui a duré 32 ans.
Bah, juste pour dire, pour moi, cette date-là, surtout, on dit le 18 mars, là, on en parle, mais d'habitude, j'y pense pas chaque année comme une commémoration, en fait, que j'ai en tête dans mon agenda politique. Du coup, je trouve ça cool que ça existe, parce que c'est quand même l'histoire d'un gros événement passé sous silence, quand même, super longtemps. Et d'autres dates auxquelles je pense... qui semble importante à défendre comme ça, même si c'est, je me dis le 17 octobre 61, comme date qui aussi petit à petit est de plus en plus mise en avant, comme ça. Je trouve qu'autour des dates, il y a des choses qui se font, qui sont assez chouettes. Je trouve que en ce moment, enfin, ces dernières années, moi j'ai vécu une réappropriation assez chouette de la date du 25 novembre, par exemple, vu comme date un peu journée sur les violences faites aux femmes, qui je trouve est un vrai rendez-vous politique et militant, de rencontre, de dynamique de lutte, de faire avancer les discours et les luttes et la mobilisation sur les violences faites aux femmes. Pareil, de redécouvrir et défendre que commémorer le 8 mars, c'est pas le jour des femmes, mais le jour des luttes de femmes, mais même particulièrement... de révolte de femmes, enfin d'un vrai événement historique et d'un moment particulier d'histoire où il se sont passées des choses qui ont eu des effets pour après et tout ça. Du coup, voilà, c'est les trois dates auxquelles je pense.
Ouais, bah, je pense qu'il y a les luttes de libération nationale dans les années 50, 60, 70, et puis après, je pense, moi, il y a la lutte du MLAC aussi en France. Comme un truc pareil, un peu, de se dire on peut être un front large. Bon, bah là, c'est pour gagner une loi, donc c'est pas forcément... Mais en tout cas, il y a eu un moment où l'idée, c'était pas de gagner la loi, un peu comme dans la commune, en fait, je pense, où c'était de gagner la force collective et la possibilité de construire collectivement, sans les tenants du savoir ou sans les tenants du pouvoir, une organisation commune, quoi.
Et toi, tu penses que c'est important de commémorer des trucs autour des dates ?
Non, je m'en fous de ça. Mais de se rappeler, de se raconter ce qui se disait, comment les gens réfléchissaient, ce qui les émouvait, ce qui les... Voilà, ça me parle plus. Mais après, j'adore jouer au loto, donc...
Et ben justement, quand il y a eu un peu cette idée de week-end de la commune, ça m'a un peu fait me questionner de... Est-ce que moi, j'ai envie de commémorer ce moment ? Enfin, qu'est-ce que ça représente pour moi, la commune ? Et j'étais pas sûre. Enfin, ça m'a fait un peu me dire, en fait, oui, je pense que ça fait partie de mon imaginaire, qui a été cultivé, je pense, par les trucs militants, où ça reste un moment, une date qu'on se rappelle... Mais je me suis dit, c'est pour ça aussi que j'ai regardé des documentaires et tout, je me suis dit, je crois qu'il faut que je réactive un peu qu'est-ce qui fait sens pour moi aujourd'hui, pourquoi ça m'intéresse, qu'est-ce qu'on peut retenir et qu'est-ce qu'on peut réutiliser aujourd'hui. Et bon, je ne l'ai pas fait du tout, mais je m'étais dit que j'aurais bien aimé même faire un arpentage, tu vois, sur des trucs un peu de base de la commune. Aussi en me disant, je pense qu'il y a plein de gens, ça ne renvoie pas à tant de choses, en fait, quoi. Enfin, et bon, voilà, au final, je suis partie en vacances et puis je suis rentrée hier soir, donc je n'ai rien fait.
Alors, dans l'histoire de... Pas forcément dans l'histoire de France. Moi, je pense qu'on pourrait... Enfin, je ne sais pas. En plus, la commémoration, c'est un peu délicat parce que ça veut dire que ça muséifie un peu. À la fois, ça nourrit des imaginaires et à la fois, ça renvoie au passé. Parce que des fois, je me dis, là, on est en train de commémorer la commune, mais qu'est-ce que ça va nous donner aujourd'hui ? En fait, qu'est-ce que ça nous donne comme idéaux politiques, comme possibilités ? Alors, je ne sais pas, je dirais il y a 36, c'est sûr, là, comme une autre date traditionnelle chez les anarchistes. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on réfléchisse à, qu'on garde un peu la mémoire de la République des Soviets. Et aussi des spartakistes, voilà, en 1919. Je me dis que dans les imaginaires, on pourrait aussi fêter le 1er janvier 1994, la révolution zapatiste. qu'est-ce qu'on pourrait fêter. Dans l'histoire de France, je ne sais pas trop. Franchement, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de choses brillantes.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Vive la commune !
Oh là là. Voilà, il y a quelqu'un à ma gauche qui crie dans le studio. C'est très agréable.
Bah foutre,
c'est
quand
le
même
Père Duchesne.
Ah bah la commune.
Père Duchesne, vous voulez
non,
faire une...
Non, on sait plus. On
vous voulez faire une dédicace à quelqu'un
aujourd'hui. Ben, je voudrais faire une dédicace à Jean-Luc Croudinck, maire de Toulouse, qui c'est notre commune.
Vous êtes héritier de Jean-Luc Croudinck?
Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du
c'est
tout.
C'est votre héritier.
À bas l'État, à bas les communes, à bas les métropoles, à bas tout.
À bas Foutriquet.
Le peuple, quand il sort de l'insurrection, après, c'est la merde.
Vous voulez faire une blague à propos de Foutriquet?
Foutriquet, foutre Dieu, Bonaparte.
Merci. Moi, je vais faire une petite dédicace spéciale aux Gervaises. Voilà, quel talent. Et aussi une dédicace à Patricia, qu'on a entendue dans toute l'émission, même si elle ne va pas aimer, parce qu'elle n'aime pas qu'on lui fasse des dédicaces, mais dédicaces. Et aussi dédicace à Maxime, qui écoute l'émission. Et à M aussi, parce que c'était son anniversaire le 29 mai.
Et voilà, et donc on a entendu plein de bouts de comme une étincelle. C'était au Poum, et le Poum, demain, c'est le 1er juin, si vous écoutez en direct, et c'est la fin de la trêve hivernale, c'est le début des expulsions, la lutte continue, et le chant des antiproprios va résonner encore pour bouffer du proprio, foutre Dieu.
Si on écoute en direct quoi?
Eh ben Bras Zéro, sur le 92.2 de Canal Sud.
Très bien.
Allez, on dit au revoir.
Bisous.
Bisous. À bientôt.
Et dédicace à Ludo. Ah là là. Voilà. Heureusement que je suis là pour faire des dédicaces.
Bisous Ludo.
Merci la technique.